France Inter. Après ses études de lettres, le réalisateur canadien David Cronenberg se rêvait écrivain ou scientifique. Il fut pilote de course, puis le cinéaste culte aussi organique que métaphysique que nous connaissons tous. Son école de cinéma, les revues techniques, comme l'American Cinematographer Magazine, qu'il lit comme des textes sacrés. À 26 ans, il fait son premier long métrage, Stéréo, sur des cobayes humains soumis à diverses expériences sexuelles. On trouve déjà là plusieurs des thèmes qui traversent son œuvre, la sexualité et ses substituts, les expérimentations sur le corps ou encore la soumission consentante. Son adaptation de la nouvelle La Mouche de George Langeland, déjà porté à l'écran par Kurt Newman en 1958, le fait rayonner auprès du grand public. Son univers gore, technologique autant que déliquescent, et hanté par un surnaturel athée, font de lui un penseur du 20e et du 21e siècle, bien qu'il se considère du 22e siècle. Vidéodrome, Dead Zone, Faux-semblant, Crash, Le Festin nu ou encore Les Crimes du futur brassent diverses interrogations existentielles et préoccupations humaines telles que la maladie, la psychanalyse, la médecine, le transhumanisme, le réel, la fiction, la folie, la violence, ou le double donnant à voir sous des formes sanglantes, visqueuses, mais non dénuées de poésie, les névroses et pulsions qui grouillent dans l'inconscient de la société. Son dernier film en date, Les Linceuls, met en scène un homme d'affaires endeuillé, ayant inventé un système permettant d'avoir accès visuellement au corps d'un proche disparu. Il peut ainsi voir le cadavre de sa femme se décomposer comme le veut la nature, à moins que des vivants ne se mettent à trafiquer les dépouilles. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir David Cronenberg.
Good evening.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Lorsque nous nous sommes présentés l'un à l'autre, nous avons parlé de chien et de chat, et j'ai aboyé. Oui, j'ai aboyé. Et je peux en faire différent, je peux aller beaucoup plus grave. Ça me donne de la joie.
Parce que je dois confesser que vous m'avez révélé avant le début de cette émission que vous aviez un chien intérieur.
Un chien intérieur nommé Frisky, que mes enfants connaissent très bien, mais dont personne ne veut vraiment en parler en public. Et ça, c'est la première fois.
Et ça, c'est un scoop. Est-il vrai que vos premières réalisations furent financées par des sociétés de production de films pornographiques ?
C'est un peu plus compliqué que ça. Lorsque j'ai commencé à faire des films, ou du moins à envisager de faire un film professionnel, un film pour lequel je serais payé et qui aurait un budget, parce que j'avais déjà fait des films underground jusqu'alors. Il n'y avait qu'une seule société au Canada qui faisait des films, une seule. Elle s'appelait Cinépix. Elle était à Montréal et moi je vivais à Toronto. Environ 500 kilomètres de là. Elle produisait parfois, pas exclusivement, ce qu'on peut appeler du porno soft. Je ne le considère pas vraiment comme des films pornographiques. En général, ils avaient aussi un angle politique très satirique sur le mouvement séparatiste français au Québec, le mouvement séparatiste canadien-français. Il y avait beaucoup de politique dans ces films. Ils étaient tout à fait charmants. Ce n'étaient pas des films que les Américains auraient souhaité voir. Et je pense que peu de gens en Europe non plus. Ils étaient très intéressés par la réalisation d'un film qui ne soit pas un film porno soft, et j'étais très intéressé par le fait que quelqu'un finance mon film et le distribue. C'était Cinépix.
Je comprends la nuance, mais j'ai une question sur la pornographie. Bien que j'ai vu beaucoup de choses assez choquantes, rien ne m'a autant choqué que vos scènes où l'émoi sexuel est provoqué par la torture ou le fait de lécher une plaie ou l'intérieur d'un corps. Que trouvez-vous pornographique ?
Pour moi, la pornographie, c'est une œuvre conçue dans un seul but, celui d'exciter sexuellement le public ou le spectateur. Et ça, c'est sa seule raison d'être. Et si elle a un autre but, les choses qui sont parfois considérées comme pornographiques cessent de l'être pornographiques et prennent une autre dimension, un autre but. Si vous faites un film pornographique, vous savez ce que vous êtes censé faire. Si vous faites un film d'art, vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes censé faire. Je sais que lorsque ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant et que je peux communiquer quelque chose de complexe, d'intéressant à mon public, alors je me dis, d'accord, c'est ce que je suis censé faire. Parfois, on ne sait jamais vraiment comment on pourrait le décrire. J'ai jamais été comme Alfred Hitchcock, qui pensait pouvoir contrôler son public comme des marionnettes. Il se considérait comme un marionnettiste. Il vous faisait rire quand il le voulait, il vous faisait pleurer, il vous faisait peur. Moi, je n'ai jamais ressenti ça. J'avais l'impression d'être davantage avec mon public. Je ne manipulais pas le public, mais je lui disais, j'ai eu cette pensée, elle peut être dérangeante pour vous, ça peut être drôle pour vous, mais je vais vous la dire et voir si vous ressentez la même chose. Je suis mon propre public, en fait.
Alors que beaucoup de gens ne peuvent voir vos films sans se cacher les yeux, vous n'avez, vous, quasiment pas pu regarder Amour de Haneke. Pourquoi ? C'était trop réaliste ?
Ah oui, c'est un film très puissant, très dérangeant. Bien sûr, en vieillissant, on commence à faire face à sa propre mort d'une manière qui... J'avais l'habitude de dire, lorsque j'étais jeune cinéaste, chaque fois que je tue un personnage dans mon film, je répète en fait ma propre mort. C'était vrai. Sauf qu'en vieillissant, la réalité se rapproche de plus en plus, jusqu'à ce qu'on ait l'impression de mourir soi-même. Et le film Amour m'a procuré ce sentiment. J'ai récemment vu un autre film. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça m'a obligé à le regarder en plusieurs parties. C'était La jeune femme à l'aiguille, un film danois. Il est à l'affiche cette année. Un film très puissant, très difficile à regarder. Je doute qu'il soit sélectionné aux États-Unis pour un quelconque prix. C'est très inhabituel pour moi, mais je n'ai pas pu le regarder jusqu'au bout. C'était trop impliquant, trop émouvant, trop dérangeant. Et pour moi, ça, c'est fantastique.
Le fait de maltraiter autant les corps, c'est une façon cathartique de conjurer ce qui les attend ?
Personnellement, je n'ai pas ce sentiment. Mais je sais qu'il y a des adeptes du sadomasochisme qui pensent qu'il s'agit d'un moyen d'affronter la mort, son caractère inévitable et la fragilité du corps humain. Au lieu de se dire « Ah, je dois me protéger », ils se disent « Je dois ressentir de la douleur, de la détresse ». Je dois avoir l'impression d'être étouffé jusqu'à ce que je meure. C'est ainsi que je peux affronter la réalité de la mort. Personnellement, je n'ai jamais eu ce besoin ou ce désir, mais je peux comprendre que les personnes qui le ressentent.
Vous dites que vous ne cherchez pas à choquer, mais que vous explorez la condition humaine en vous demandant comment parvient-on à vivre. Et vous dites aussi que vous n'avez pas d'autre intention que le jeu, qu'il s'agit d'inventer des histoires, des machines, des personnages, que tout ça finalement est très enfantin.
Oui. Je pense qu'il est très facile de perdre de vue le caractère ludique de la créativité. Lorsque vous faites un film, c'est comme si vous portiez des vêtements qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Vous laissez pousser une moustache. Vous mettez des drôles de chapeaux, vous parlez d'une voix bizarre, vous êtes comme des enfants qui font semblant d'être d'autres personnes. Et il est facile de perdre de vue cela à cause de la pression de l'argent, du temps et tout ça, la carrière. Mais nous nous amusons quand nous tournons à faire des films. J'ai entendu dire, et je le crois, et je veux le croire, que les plateaux de tournage d'Ingmar Bergman, qui étaient réputés très sérieux, étaient très drôles. C'était un homme très drôle, très espiègle. Les gens sur son plateau, quand il ne tournait pas, disaient qu'il riait tout le temps. Et sur mes plateaux, c'est à peu près la même chose. C'est un sentiment très léger, il n'y a pas de lourdeur, quoi que nous fassions. Je pense qu'il est important de rester en contact avec le côté ludique.
Ingmar Bergman a écrit une autobiographie qui est très drôle, La Terna Magica. Votre film Crash, adapté du livre de Ballard dans lequel des êtres sont sexuellement excités par des accidents de voiture, a rencontré beaucoup d'hostilité à sa sortie. Est-ce que ça vous a heurté ?
Non, j'étais ravi. Il est intéressant de noter que récemment, bon, il y a quelques années, nous avons projeté Crash en version numérique 4K restaurée à Venise, lors du Festival du film de Venise. Et le public était très jeune. Et je pense que personne n'a été choqué, pas du tout. C'est une question d'époque. Ce qui était considéré comme très choquant en 1997, est aujourd'hui considéré comme simplement intéressant. J'ai été surpris lorsque le film soit accueilli alors avec autant d'hostilité, parce qu'il était basé sur une nouvelle de J.G. Ballard parue 20 ans plus tôt, qui était bien acceptée, bien connue. Mais d'une certaine manière, la version cinématographique a touché un public totalement différent. Bien sûr, c'était très visuel, mais le pire, c'est quand votre film ne suscite aucune réaction. Ça serait vraiment terrifiant.
Il y a beaucoup de fétichisme dans vos films. Il peut toucher les jeux vidéo, le sexe, les accidents, les opérations chirurgicales ou les détails. Quel fétichiste êtes-vous ?
Écoutez, je ne pense pas être fétichiste du tout. Je ne pense pas non plus être obsessionnel. Le souci du détail, ça fait partie du métier. Je pense vraiment que c'est le propre de l'art cinématographique. Le réalisateur doit être attentif. Si vous avez écrit le scénario, encore plus, si vous êtes scénariste-réalisateur, ce qui est souvent mon cas, c'est votre création. Et personne d'autre ne s'en occupera autant que vous. Vous devez trouver une équipe qui travaillera avec vous et qui est, disons, obsédée par son propre métier, qu'il s'agisse de la conception des vêtements, des décors, de l'éclairage. En fait, je me sers des obsessions de beaucoup d'autres personnes pour ne pas avoir à être obsessionnel. Mais je suis sérieux dans mon travail. Je suis très sérieux.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
David Cronenberg, parlons de vos débuts. À 9 ans, vous dévorez des ouvrages de littérature fantastique, de science-fiction et de biologie, et vous vous rêvez écrivain. Alors, il faut dire que votre père collaborait au magazine True Canadian Crime Stories et avait tenu une librairie pendant la Grande Dépression, époque où personne n'achetait de livres. C'est pour ça qu'il y avait plein de livres chez vous.
Yes, that's true.
Oui, c'est vrai. Je ne dirais pas que personne n'achetait de livres, mais c'était peu nombreux. Il y avait un empire, Cole's Bookstore. Jack Cole est quelqu'un que j'ai rencontré plus tard. Il avait à peu près l'âge de mon père. Il a créé un groupe de librairies au Canada qui a connu un grand succès pendant la Grande Dépression. Mais il n'y avait pas de romans. Il s'agissait surtout de livres de bricolage et de jardinage. Les gens n'avaient pas les moyens d'embaucher du personnel à l'époque. Il fallait apprendre à créer son propre environnement physique. Mon père, quant à lui, vendait des livres comme Ulysse de James Joyce, qui était très scandaleux. En parlant de scandale, c'était un livre très scandaleux à l'époque. Les gens ne voulaient pas le lire. Ils préféraient lire des manuels de réparation de leur système de climatisation.
Vous avez écrit un roman paru en France en 2016 sous le titre « Consumé », dans lequel il est question de cannibalisme chez des intellectuels français et de l'obsession d'un couple de photojournalistes s'intéressant à l'affaire. Alors, j'ai lu que Sartre et Beauvoir avaient été les modèles du couple et que pour l'homme, vous auriez aimé prendre Dominique Strauss-Kahn pour le rôle.
Yes. Well, I wasn't exactly thinking
je ne pensais pas exactement vouloir que DSK joue dans mon film. Je ne sais pas s'il aurait été un bon acteur. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque je pensais à ce personnage, je ne pensais pas non plus à l'apparence de Sartre ou Simone de Beauvoir. Je me disais que si je demandais à mon agent de casting de trouver un acteur français pour jouer ce rôle, quelqu'un comme DSK, dans la fleur de l'âge, lorsqu'il était très puissant, serait le genre d'acteur que je voudrais. Je ne voulais pas vraiment dire que je souhaitais qu'il joue le rôle. Je ne pense pas qu'il aurait été un assez bon acteur, mais d'un autre côté, il a un peu théâtralisé sa carrière, c'est sûr. Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui vous fascine dans la mythologie intellectuelle française?
Je pense que ça a été très puissant pour moi, parce que je me considère comme étant un existentialiste. Et dans les années 40 et 50, même peut-être dans les années 60, c'était considéré comme très branché, cool, chic. Aujourd'hui, plus personne n'en parle du tout, mais je pense que c'est ce que je suis. Je suis fondamentalement athée. Quand on parle du théâtre de l'absurde, je considère que cela vient de l'existentialisme. Et je suis vraiment là. C'est là que je me situe philosophiquement. Je dirais que, par conséquent, j'ai été très intrigué par Sartre et Beauvoir et par tout ce qui les entourait, ainsi que par l'ensemble du tissu philosophique et culturel français. C'était très intrigant, très puissant et très sexy, je trouve aussi.
Mais n'est-il pas difficile d'être existentialiste, sans consolation, sans croyance, sans se dire qu'il y a un sens ?
Oui, c'est vrai. C'est pas facile. Mais je suppose que si vous êtes un catholique fervent, vous trouverez probablement un prêtre qui vous dira « Ah, c'est pas facile d'être un bon catholique fervent. » Peut-être que c'est pas tellement différent, en fait.
L'écriture est-elle douloureuse pour vous ?
Non, écrire n'est pas douloureux. Ça peut être difficile, frustrant, mais je ne dirais pas douloureux. Et quand ça coule, c'est merveilleux. En d'autres termes, c'est un peu comme la vie elle-même.
Vous rappelez que Bergman, jusqu'à l'âge de 45 ans, était persuadé qu'il avait échoué en tant qu'artiste parce qu'il faisait du cinéma et non des romans. Pedro Almodovar et Werner Herzog, venus dans l'émission, se considèrent d'abord comme des écrivains avant d'être cinéastes. Est-ce que c'est votre cas aussi ?
J'ai réalisé plusieurs films que je n'avais pas écrits. Je pense que la compréhension de l'écriture est toujours fondamentale pour la réalisation d'un film. Même si vous n'avez pas écrit de roman, je pense que l'écriture est essentielle à la réalisation d'un film. Il y a des cinéastes qui n'écrivent pas et qui essaient d'être très spontanés. Je dois dire que lorsque j'ai réalisé mes premiers films underground, les deux longs métrages, Stéréo et Crimes of the Future, la première version, je me promenais vraiment avec la caméra. J'écrivais directement avec la caméra. C'était charmant, intéressant. Mais ça signifiait que ça pouvait prendre des années pour faire un film. Des années à se balader avec la caméra. Une fois que vous avez atteint le niveau professionnel, avec des acteurs professionnels qui s'attendent à être payés, vous n'avez plus le temps de le faire. Même de ce point de vue, l'écriture est un moyen essentiel de tout comprimer dans le temps pour que la caméra n'aille pas autant à bagnauder.
À vos débuts, j'ai lu que vous utilisiez la chaise roulante de votre grand-mère pour les travelling, c'est vrai ?
Mais c'est vrai. Je ne me souviens pas si j'étais inspiré par Godard et son caméraman, Raoul Coutard. Mais je l'ai vu, j'ai vu des photos où il utilisait le fauteuil roulant. Je ne pense pas qu'il ait appartenu à quelqu'un. Mais je ne me souviens pas si je l'ai fait moi en premier ou si je l'ai fait plus tard. Mais oui, ma grand-mère, j'avais une grand-mère amputée d'une jambe et elle vivait avec nous. Et plus tard, j'ai utilisé son fauteuil roulant pour filmer des travelling dans Stéréo et Crimes of the Future. Ils sont parfaits, ces travelling. Vraiment bon. Mais je n'asseyais personne dans le fauteuil roulant. J'ai utilisé le fauteuil que pour la caméra.
If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you believe you've seen everything, then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear.
Ce n'est qu'en 75, sur le plateau de Shivers, que vous avez eu pour la première fois une équipe complète. Mais finalement, dans votre œuvre, vous avez toujours préservé le caractère artisanal et familial de la fabrication, en restant fidèle à plusieurs collaborateurs.
Oui.
There's a real
Il y a un réel confort là-dedans. Là aussi, c'est un moyen de comprimer le temps, parce que si vous travaillez avec des gens que vous connaissez et en qui vous avez confiance, il y a de la télépathie. Vous n'avez pas besoin de discuter ni d'entrer dans la tête de l'autre, parce que vous êtes déjà passé par là, vous connaissez vraiment bien. Idéalement, je me suis senti différent de certains cinéastes qui voulaient le dernier caméraman en vogue, le dernier costumier en vogue, qui venait de remporter un Oscar ou un autre prix. Je voulais vraiment travailler avec des gens en qui j'avais confiance, qui me comprenaient et que je comprenais. J'essaie de maintenir cela autant que possible. Les temps changent, les gens changent, les circonstances changent. Ça n'a pas été toujours possible. Et puis les gens meurent aussi, apparemment. Parfois, vous perdez un membre de votre équipe d'une manière ou d'une autre. Et c'est toujours très douloureux.
Vous avez adapté Stephen King avec Dead Zone. Alors lui dit qu'il met toute sa folie dans ses livres et que pour cela, il doit avoir une vie quotidienne très banale. Et vous ?
Oui, j'ai une vie très bourgeoise et ennuyeuse. J'ai rencontré des gens qui pensent que je dois être glamour, je dois avoir des fans qui se jettent sur moi tout le temps, des femmes et tout le reste. En réalité, je me contente d'aller à l'épicerie du coin, d'acheter du lait, des bananes. Et bon, il y a des gens que je connais dans le quartier qui me disent bonjour. C'est vraiment pas très glamour. Je suis certain qu'il y a des gens qui veulent vivre une vie très glamour. Peut-être que pour ça, ils doivent aller à Hollywood. Pas moi. Je pense que c'est en partie parce que la seule fois où les gens me voient, ce sont des images du Festival de Cannes. On est sur le tapis rouge, magnifiquement vêtu. Vous pouvez voir comment je suis habillé maintenant. Bon, c'est vrai. J'ai des jeans Saint-Laurent, mais je ne les porte pas très souvent. Ils pensent que votre vie ressemble au Festival de Cannes tous les jours, ce qui serait très épuisant. Mais ce n'est pas le cas.
Est-ce que les coupures vous stimulent comme Debbie Harry ou le couple d'artistes de Crimes du Futur ?
J'ai jamais mutilé qui que ce soit.
Dommage.
Écoutez, si vous voulez être la première, on peut le faire ici, sur place. Non, je comprends la passion. Je pense que la passion, c'est une passion sexuelle, une passion amoureuse. Moi, je pense que je suis un romantique. Je crois en l'amour romantique et j'en ai fait l'expérience. J'ai vécu avec ma femme pendant 43 ans. Nous étions très passionnés, très physiques. Je peux tout à fait comprendre lorsque le physique dépasse ce que les gens considèrent comme ordinaire ou normal et qu'il se transforme en quelque chose d'autre. Parce que c'est comme si votre corps ne pouvait pas contenir la passion. Je peux comprendre ça. C'est en partie pour cela que l'on voit cela dans mes films, parce que j'ai des personnages qui vivent comme ça.
Dans votre film Crimes of the Future, on pourrait croire qu'on vous entend à travers le personnage de Saul Tenser qui dit « I'm afraid of everything », j'ai peur de tout, et aussi quand il dit « ce que j'exprime dans ce truc body art, c'est que je n'aime pas ce qui arrive au corps ».
Yes, yeah, there's some of that.
Oui, il y a un peu de cela, vous savez, bon. Bien sûr, moi, à mon âge, j'ai eu 82 ans en mars. Chaque fois que je regarde les informations, il y a quelqu'un de mon âge qui vient de mourir. Il est difficile de ne pas être conscient de ce qui arrive à votre corps. C'est aussi assez fascinant si vous êtes moi, si vous êtes un scientifique. Vous savez, quand j'étais à l'Université de Toronto, j'ai d'abord étudié la chimie organique. Je n'ai pas étudié l'art, ni la littérature. Je trouve ça intéressant. Je n'aime pas obligatoirement ce que l'on ressent. Il y a cette coupure. On en retire quelque chose, cependant, je dois dire. Ce n'est pas si mal.
Pour vous, la première preuve de l'existence de l'homme, c'est son corps. Vous le ramenez au centre, à l'opposé de la plupart des représentations actuelles où l'homme est désincarné. Et vous vous désolez que tous les journalistes français vous parlent de vos obsessions. Je ne suis pas obsédé, je ne suis qu'un observateur, dites-vous. On peut tout de même noter une fixation sur les organes, les viscères et les orifices. Vous qui avez montré tant de choses organiques, tant d'intérieurs, de sang, de sécrétions, de tortures, avez-vous le dégoût de certaines choses ?
Bien sûr, certains hommes politiques me dégoûtent, que je ne citerai pas. Ils sont très dégoûtants.
Rien de ce qui provient du corps.
Écoutez,
Si vous avez des enfants, et j'ai trois enfants et quatre petits-enfants, votre rapport au corps est différent de celui des personnes qui n'ont jamais élevé d'enfants. Parce que les choses qu'un adulte pourrait considérer comme dégoûtantes avec des enfants, ce sont des choses tout à fait normales. Voilà pour la relation au corps. Et puis il y a autre chose dont je parle dans Faux-semblants. Pourquoi n'y aura-t-il pas des concours de beauté pour l'intérieur des corps ? Nous sommes programmés pour être repoussés par l'intérieur du corps. C'est une question d'évolution. Nous savons que c'est dangereux pour nous. Ça peut causer des infections de voir l'intérieur du corps. Mais notre compréhension va plus loin. L'intérieur du corps est un univers. C'est fantastique. Le corps humain est extraordinaire. De nombreux scientifiques réputés affirment qu'il est probable que le cerveau humain soit la chose la plus complexe de l'univers. Et ce n'est pas de l'arrogance humaine que de dire cela. C'est parce que le cerveau humain est si complexe, si compliqué, si actif, si dynamique. On pensait autrefois qu'à partir de l'âge de 21, 22 ans, le cerveau ne changeait plus, il ne faisait que se dégrader. Depuis, on a appris que le cerveau est constamment dynamique. Il y a un scientifique célèbre, Gerald Edelman, qui a déclaré que le cerveau n'est pas un ordinateur, mais plutôt comme une forêt tropicale. Il y a une lutte constante pour la domination entre les neurones. De nouveaux neurones se forment, les anciens meurent, et votre cerveau est en constante évolution jusqu'à votre mort. Toutes ces choses sont fascinantes pour moi. Ce qui signifie que si vous voyez un accident de voiture et que le cerveau de quelqu'un se répand sur la chaussée, ce ne serait pas très joli, ce ne serait pas très attirant. Ça pourrait être assez dérangeant et répugnant. Mais si vous considérez la réalité de la structure du cerveau, alors c'est fantastique, c'est tout à fait positif. En d'autres termes, je dirais que ma réaction en termes de dégoût n'est pas simple.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
So how do you activate the screen? Just hers, I assume, for now. I'd like to see her.
Would you? Well, you fire up the Gravetech app that you've downloaded from our website, and with that, you control your special screen. Can you see? I can see what's happening to her. I'm in the grave with her.
David Cronenberg, vous sortez le film Les Linceuls avec Vincent Cassel que vous faites tourner pour la troisième fois. Léa Seydoux incarnait Caprice dans votre film précédent. Il y a beaucoup d'accents et de nationalités différentes dans vos films. Pourquoi ? C'est quelque chose qui vous plaît ?
Le langage. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que le cinéma est uniquement visuel et que le langage n'est presque pas important. Je suis en total désaccord avec ça. Ça vient de l'époque du muet, quand on ne pouvait pas avoir de langage autre qu'écrit sur l'écran. Je pense que le langage est extrêmement important pour le cinéma. Et le dialogue, pour moi, est d'une importance fantastique. Dès qu'on parle de dialogue, on parle de langage, de langue, d'approche du langage, de la capacité de certaines personnes à manier les langues et d'autres non. Et cela m'ouvre immédiatement le monde des accents et des langues.
Dans Les Linceuls, un ancien producteur de vidéos industrielles a les dents pourries par le chagrin suite à la mort de sa femme. Et il invente une sorte de linceul caméra scanner qui permet d'observer les défunts en 3D dans leur tombe. Est-ce que l'idée de la caméra linceul vous a été inspirée par le décès de votre épouse et collaboratrice Caroline Zeifman en 2017.
Oui, c'est vrai. Il y a un débat intéressant à avoir sur ce qui est autobiographique dans un film et ce qui ne l'est pas. Je peux simplement dire que même si de nombreux éléments dans Les Linceuls viennent de ma propre vie et de la mort de ma femme en 2017, il s'agit tout de même d'une fiction. Dès que vous commencez à écrire un scénario, vous écrivez de la fiction, vous inventez des personnages. Il y a certaines choses, des révélations, des prises de conscience, des choses sur moi-même qui ne seraient pas arrivées si je n'avais pas vécu la mort de ma femme. L'une d'entre elles, c'est que comme le personnage joué par Vincent dans le film, il dit « Quand ils ont enterré ma femme, j'ai vraiment voulu entrer dans le cercueil avec elle. C'est pas parce qu'il voulait mourir, mais parce qu'il ne pouvait pas supporter de la laisser partir. Il voulait continuer à voir ce qui lui est arrivé, même si c'était après la mort. C'est pas comme s'il essayait de la rejoindre dans l'au-delà ou quoi que ce soit de ce genre, comme le pensent certains critiques qui n'ont pas vu le film, non. C'est juste qu'il voulait toujours ce lien. Parce que bien sûr, vous ne pouvez pas rentrer dans la boîte avec elle parce que vous mourriez et que les gens ne vous laisseraient pas le faire. La meilleure chose à faire pour moi, en tout cas, c'est de voir, au moins voir ce qu'il advient à ce corps. Comme il le dit, le corps qu'il aimait, dans lequel il vivait, c'était l'univers pour lui. Et il ne pouvait pas le laisser s'enfouir sous terre et plus jamais la revoir. C'était son invention.
Vincent Cassel vous ressemble presque dans le film, il a la même coupe. Si l'entreprise GravTech existait, achèteriez-vous une caméra linceul ?
Plus encore, il m'est venu à l'esprit, si cette technologie avait existé, l'aurais-je utilisée avec ma femme ? Et je pense que la réponse est oui. Et en fait, la technologie existe. Vous pourriez créer ce que j'ai créé, mais personne ne veut vraiment le faire. Et peut-être qu'après la sortie du film, quelqu'un voudra le faire. Je dois dire que j'ai dû dire aux gens que je n'avais pas choisi Vincent à cause de ses cheveux. C'est par hasard que sa coupe de cheveux était la même que la mienne. Nous ne nous ressemblons pas du tout. Mais pour une raison ou une autre, sa présence à l'écran fait que mes amis pensent à moi. C'est indéniable. C'est vraiment un accident, ce n'est pas intentionnel.
Dans le film, il conduit une Tesla, il est entouré de technologies. On pense à Elon Musk, au GAFA, dont l'un des buts est justement d'annihiler la mort. Que pensez-vous de ce projet ?
C'est idiot, vraiment. L'évolution s'arrêterait s'il n'y avait pas de mort. Le monde ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas de mort. On ne parle pas simplement des gens, mais de tout ce qui est vivant. C'est la dynamique. Qui voudrait vivre 1000 ans ? Moi, je suis épuisé rien que d'y penser. On ne dort jamais assez. Je pense que c'est insensé. L'idée que nous pouvons prolonger notre vie jusqu'à 100 ans, peut-être pour plus de personnes qu'il n'y en a déjà, oui, c'est ce qui se passe de toute façon, grâce aux progrès de la science et de la médecine, qui font que l'âge moyen est plus élevé qu'il ne l'était. Mais vivre éternellement, non, il ne faut pas être immortel. Honnêtement, le monde ne le souhaite pas non plus.
Dans Les Linceuls, la sœur de son épouse défunte l'accuse de voyeurisme concernant les cadavres. Dans vos films, chose remarquable, vous ne jugez jamais vos personnages, il n'y a pas de morale. Êtes-vous pareil dans la vie ?
Comme je l'ai dit, j'ai jugé certains politiciens de façon très négative. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de jugement. Mais vous savez, on a beaucoup parlé de guerre culturelle, de jugement, juger, pas être jugé. J'ai tendance à laisser les gens être ce qu'ils sont. J'ai tendance à accepter les gens pour ce qu'ils sont. Et je trouve ça intéressant. C'est pas que je me fasse pas une idée de ce qui est parfait, ce que les gens devraient être ou pas être. Mais je pense que je juge beaucoup moins que la plupart des gens. Peut-être que beaucoup d'autres personnes diraient la même chose, je sais pas. Je pense pas que je porte beaucoup de jugements, surtout en ce moment.
Dans vos films, il y a aussi souvent des traîtres. On ne sait jamais si on peut faire confiance à quelqu'un ou pas. Ici, ce qui excite l'un des personnages, ce n'est pas le corps abîmé, mais la conspiration. Et le complot est récurrent dans votre œuvre. Alors êtes-vous, comme Philippe K. Dick, paranoïaque, c'est-à-dire lucide.
Je suis vraiment intrigué par la créativité qui se cache derrière la paranoïa. Depuis que les réseaux sociaux existent, il y a beaucoup plus de conspirations et de conspirations inventives. Il faut dire que dans la vie, il y a des conspirations politiques, personnelles. Je me souviens de m'être surpris moi-même en parlant à un public lors d'une séance de questions-réponses sur Les Linceuls, et j'ai dit « Toute histoire d'amour est une histoire d'espionnage. »
Pourquoi ?
Yeah, I don't know yet.
Je ne sais pas encore. Je suis encore essayé de comprendre. Ça a à voir avec la conspiration des personnalités. Inévitablement, la plupart des conspirations dont nous entendons parler sur les réseaux sociaux sont, s'il ne s'agit pas de tentatives délibérées de provocation, c'est un moyen pour une personne de promouvoir sa propre spécificité, de dire « je sais des choses que personne d'autre ne sait, je peux voir la vérité, vous ne pouvez pas me tromper ». Ça vous donne un sentiment de puissance, de conviction, d'importance. Je pense que la plupart des théories du complot trouvent leur origine dans ce besoin personnel. Cependant, certaines d'entre elles peuvent être très créatives et intrigantes, même si elles sont manifestement absurdes et fausses. Je pense que les réseaux sociaux nous ont permis d'atteindre un nouveau sommet en matière de créativité et de théorie du complot.
Le seul type sain de tous vos films, c'est Jude Law qui ne veut pas se faire perforer la chair et qui dit « I'm very worried about my body dans Existence ». David Cronenberg, vous mettez des objets sans cesse à l'intérieur des gens, des VHS, des pods, des doigts. Est-ce que vous aimez l'idée de fusion entre le technologique et le biologique ?
Je pense qu'il faut être prudent, parce que personnellement, j'ai des appareils auditifs, j'ai été opéré de la cataracte, mes yeux, moi je vous vois maintenant à travers des lentilles en plastique, pas des lentilles biologiques, c'est merveilleux parce que sinon je pourrais ni vous entendre ni vous voir, et j'aime faire les deux. D'un autre côté, il y a une limite parce que le corps est incroyablement complexe. Il arrive très souvent que l'on propose quelque chose, un médicament merveilleux, et on comprend soudain qu'il y a des effets secondaires que personne n'aurait pu prévoir en raison de la réaction complexe de l'organisme. Mais nous n'avons jamais accepté le corps tel qu'il est. Il y a des milliers et des milliers d'années, nous faisions des tatouages sur le corps, on amputait le corps, on ajoutait des choses au corps. Nous ne nous acceptons pas tels que nous sommes. Nous pouvons imaginer un corps meilleur et nous essayons souvent d'y parvenir. C'est la nature humaine. Je pense que toute notre technologie est très humaine. Dans les années 40 et 50, on considérait que la technologie la plus enthousiasmante venait de l'espace, d'extraterrestres, de science-fiction dotés de pistolets à rayons spéciaux. On pensait que la technologie était fondamentalement dangereuse. En réalité, elle est totalement humaine. C'est un reflet de ce que nous sommes. L'extension du corps avec un gourdin ou une pierre que l'on lance, l'extension de la voix, ce que nous faisons tous les deux en ce moment avec les micros et les oreilles, avec les appareils auditifs. C'est ce que nous sommes, en d'autres termes, incroyablement brillants, créatifs, mais aussi incroyablement destructeurs et dangereux.
Max Wren is a victim.
I woke up with a headache.
He has been exposed to Videodrome.
I've been hallucinating for a while, ever since...
What?
Since I... first saw Videodrome.
His brain is already receiving video images.
Dans votre œuvre, David Cronenberg, on trouve pas mal d'excroissance. Là, on entend la bande-annonce de votre film Videodrome, sorti en 83, où une tumeur est provoquée par le visionnage de vidéos pirates de torture qui rendent accro. Alors, question, avez-vous vraiment vendu sur Internet vos calculs rénaux ?
Ouais, mais il n'y a pas eu d'acheteur.
Oh no, I cannot believe you.
J'ai essayé. J'ai gardé mes calculs rénaux parce que je les trouvais assez étonnants et qu'ils avaient aussi de belles formes biologiques, comme des sculptures, des petites sculptures. Et ils montraient un peu la façon dont votre corps fonctionne de l'intérieur. J'ai pensé qu'ils valaient la peine d'être vendus en tant qu'objet d'art, ce qui me permettrait d'établir un lien intime avec vous ou avec la personne qui les achèterait. Je pensais que certains de mes fans me donneraient peut-être $1 million pour mes calculs rénaux, et personne ne les a achetés. Bon, quelqu'un a fini par le faire, mais c'était beaucoup moins qu'$1 million. Et je n'ai pas encore décidé d'en fabriquer d'autres.
Dans vos films, vous jouez sur la frontière entre hallucination et réel. Je pourrais citer Existence, Le Festin Nu, Vidéodrome, Les Linceuls. Beaucoup de vos mises en scène, finalement, peuvent évoquer la psyché d'un drogué. Le climax étant évidemment atteint dans votre adaptation du Festin Nu de Burroughs, l'auteur de Junkie. Avez-vous des addictions?
Je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. Je ne suis pas une personne très dépendante. Alors, bien sûr, j'ai expérimenté certaines drogues dans les années 60. Et je n'ai pas trouvé... Bon, j'ai pensé que c'était intéressant, mais que c'était très facile d'arrêter quand elles devenaient embêtantes ou dangereuses.
Je
n'ai pas vraiment de personnalité addictive. Je n'ai jamais fumé, je ne bois pas, et je n'ai pas pris de drogue depuis des milliards d'années, sauf celles qui me permettent de rester en vie.
Il paraît que Scorsese avait peur de vous rencontrer à cause de vos films et vous imaginez comme un fou maniaque.
Oui,
Marty Scorsese m'a dit qu'il avait peur de me rencontrer, qu'il aimait mes films. Il en avait peur, et il pensait que je devais être fou. Et nous sommes devenus bons amis depuis. Je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, mais il s'est rendu compte que de la vérité, en fait, à savoir qu'il y a une grande différence, et il le sait, parce que je lui ai dit, « Vous êtes le gars qui a fait Taxi Driver, et vous, vous avez peur de moi? Moi, j'ai peur de vous. » Donc, il devrait connaître la différence, bien sûr il la connaît, entre le créateur et ce qui est créé.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, dirt. I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million
standard de ce soir, c'est le morceau Hurt de Johnny Cash et nous sommes toujours avec le cinéaste David Cronenberg.
Eva Bester, la 20e heure sur France Inter.
Dans Les Crimes du futur, il y a une réflexion sur l'art et l'une des techniciennes dit que la création artistique est liée à la douleur. Est-ce que vous le pensez ?
Je ne pense pas vraiment que la création artistique doive être douloureuse. En général, c'est douloureux quand c'est frustrant, quand quelqu'un sent qu'il est proche d'une vision, d'une expression, et qu'il n'arrive pas à le faire fonctionner. Ça, c'est frustrant. Mais ça, c'est normal. C'est comme les enfants qui sont frustrés quand ils ne peuvent pas dessiner ce qu'ils veulent dessiner. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire que la créativité soit douloureuse.
Eh bien, moi j'écris ce que je veux. J'ai écrit Dolly-Tup, que je voulais l'écrire et je l'ai écrit. Et j'écris ce que je veux sans songer à un public éphémère. Mes lecteurs favoris, savoure le livre sans se préoccuper, j'espère, de l'auteur qui est un gros bonhomme chauve, pas intéressant du tout.
Nabokov en 1959. Il est avec Burroughs, une de vos influences majeures.
Il ne faut pas oublier que j'étais un peu universitaire et que j'étais lecteur, je lisais beaucoup de livres. Nabokov était un universitaire et il a écrit des satires universitaires. Feu pâle est l'un de mes romans préférés. Et c'est essentiellement une analyse d'un poème. C'est ça, ce livre. Ça a vraiment fait appel à mon sens universitaire parce qu'il fut un temps où je pensais que je serais enseignant dans une université, un professeur. C'est ce que Nabokov a été pendant un certain temps avant d'écrire Lolita. Il devait travailler. Il ne gagnait pas assez d'argent en écrivant ses romans. Il est devenu enseignant. Je pouvais vraiment m'identifier à cet aspect de sa personnalité. Il est très drôle. Ses écrits sont très drôles. Mais ils le sont souvent d'une manière très académique. Ce qui, je suppose, pourrait ne pas plaire à beaucoup de gens. Mais moi, ça me plaisait beaucoup.
En 2016, dans votre bibliothèque numérique, on trouvait Irène Némirovski, Kamel Daoud, Marshall McLuhan et Marcel Proust. Qui trouve-t-on aujourd'hui ?
J'ai des goûts très éclectiques. Il faudrait que je regarde sur mon téléphone pour vous dire ce que je viens de lire. J'aime lire des histoires d'espionnage, des vraies histoires d'espionnage et des fausses. J'aime ça. L'un des derniers livres que je viens de lire est l'œuvre d'un certain Ben McIntyre et s'intitule « Agent Sonia », l'espionne voisine en anglais. C'est l'histoire d'une femme espionne russe. Fantastique. J'avais jamais entendu parler de cette femme auparavant. Elle a été très impliquée dans beaucoup d'activités d'espionnage soviétique, y compris avec Klaus Fuchs, qui a volé les secrets de la bombe atomique américaine et les a donnés à Staline. Je suis vraiment le bon client pour les histoires d'espionnage. C'est pourquoi vous trouverez beaucoup de conspirations dans mes films, parce que les conspirations sont essentiellement des histoires d'espionnage.
Deux dernières questions, David Cronenberg. Vous vous êtes intéressé à la psychanalyse dans A Dangerous Method. Avez-vous déjà consulté et est-ce que votre psyché ressemble à vos films ?
Non, je n'ai jamais consulté de psychiatre, même si j'en ai rencontré un certain nombre. Ma dernière rencontre avec un psychiatre remonte à quelques années, mais c'est il n'y a pas si longtemps. C'est un psychiatre italien qui était venu spécialement à Toronto pour me parler, parce qu'il écrivait aussi sur le cinéma. Beaucoup de psychiatres sont très intéressés par le cinéma. Il voulait me parler, il m'a demandé comment je réagissais à la mort de ma femme. Et j'ai répondu, je souffre, c'est comme ça que je le gère. Et il m'a dit, d'accord, je ne pense pas que vous ayez besoin de thérapie. Voilà, c'est tout pour la psychiatrie. J'aime Freud, et ça n'a pas nécessairement à voir avec le degré de vérité ou d'exactitude de chacune de ses théories. J'ai simplement trouvé que c'était un homme fascinant, très brillant, et un merveilleux écrivain. Bien sûr, je ne connais pas assez bien l'allemand pour le lire, mais je crois savoir que son allemand est très beau. J'étais très enthousiaste à l'idée de le recréer dans un film, et bien sûr aussi de recréer d'une certaine manière son ennemi juré, Carl Jung. Oui, pour moi, c'est une grande histoire. C'est un peu une histoire d'espionnage et de conspiration.
Merci beaucoup, David Cronenberg.
Oh, thank you.
Merci, c'était un plaisir.
Votre film « Les Linceuls » sortira le 30 avril prochain. Merci également à Michel Zotowski d'avoir assuré la traduction. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïc Frapsos et David Diboué-Black. Et un merci spécial à notre stagiaire Jill Echen.